Et Aline Faucheur, qui est notre avocate et qui répond aux questions de droit de la famille chez nous, qui arrivera d'ici quelques instants. Elle est en train de garer la voiture. Donc elle répondra en direct à vos questions. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question sur le droit de la famille à une avocate? Alors quand on dit droit de la famille, c'est vrai qu'on pense essentiellement à tout ce qui est séparation, divorce. Si vous êtes dedans, si vous projetez, si vos enfants sont dedans, si vous avez envie de conseils tout simplement, ben vous n'hésitez pas un petit coup de fil. On peut parler de modalités du divorce. On peut parler de partage des biens, si vous trouvez que c'est inéquitable, que vous n'êtes pas d'accord, comment on peut faire, de pension, de garde des enfants, peut-être que ça se passe bien, peut-être pas. Un petit coup de fil, 03 83 36 20 20, dès maintenant sur le droit de la famille, le droit des grands-parents, le droit des tiers également. On vous attend, elle sera avec nous jusqu'à 10h pour répondre à ces questions. Je vous donne le numéro, c'est le 03 83 36 20 20, avec nous jusqu'à 10h sur France Bleu Lorraine. Et c'est le même numéro pour poser vos questions à Aline Faucheur, qui est avocate. Bonjour Aline, bonjour maître.
Bonjour.
Vous intervenez chez nous sur les questions de droit de la famille, c'est-à-dire tout ce qui est séparation, divorce, enco.
Oui.
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre dans droit de la famille d'ailleurs?
Oh ben, il y a pas mal de choses. Il y a les adoptions, il y a les successions.
Ah, oui c'est marrant, succession, on pense notaire.
Ah bah, c'est vrai qu'ils ont une place quand même beaucoup plus importante que nous dans le cadre des successions, ça il n'y a pas de difficulté, mais quand il y a un contentieux entre les différents héritiers indivisaires, on est obligé d'en passer par un avocat pour faire une procédure devant le tribunal, trancher les litiges entre héritiers.
Donc moi je vous mets dans la case divorce et en fait non, pas forcément quoi.
Pas que.
Bon,
pas que.
Mais c'est vrai que c'est le gros du boulot peut-être.
Alors les divorces et aussi les séparations des couples non mariés s'agissant des enfants. Parce qu'en fait, il n'y a que ça.
03 83 36 20 20. Si vous avez des questions à poser à maître Aline Faucheur, vous n'hésitez pas. Un petit coup de filant, j'ai lu une histoire marrante ce week-end, l'histoire d'une Écossaise qui a gagné à l'euro million, je crois que c'est 173 millions d'euros. Une pacotille. Elle a divorcé dans la foulée. Et forcément, son mari pas content parce qu'apparemment, elle ne veut pas partager. C'est l'Écosse. Alors, je sais pas ce que c'est que le droit écossais, mais chez nous, est-ce que ça peut
alors,
se passer?
Alors, chez nous, ça peut se passer si on est marié sous le régime de la communauté. C'est-à-dire pas de contrat de mariage. Tous les gains tombent dans le pot commun, que ce soit des gains issus du loto,
ouais,
ou que ce soit des gains issus du travail, ouais, que ce soit des gains issus d'ailleurs de placement. Tout tombe dans le pot commun qui est la communauté.
Donc si
en
pas de contrat,
revanche,
on doit partager.
Bien, non.
Si on n'a pas fait de contrat, on doit partager.
Oui.
Parce que je suis sûre que c'est déjà traverser la tête de certains de ceux et de celles qui nous écoutent.
Ah bah c'est
sûr. Dire si je gagne le loto, je me barre.
Tout à fait.
Donc on est quand même obligé de...
Tout à fait, on est quand même obligé d'en céder la moitié. Au moment justement du divorce, on partage cette communauté et il y a les gains du loto à l'intérieur de la communauté.
Après, quand tu gagnes 173 millions d'euros, c'est un peu petit de ne pas vouloir partager. Hein?
Après, effectivement, si on est séparé de biens, à ce moment-là, c'est ses propres gains, on peut divorcer pour éviter de partager au quotidien.
Mmh. Alors, tout ne tombe pas dans le pot commun. Vous m'aviez dit que tout ce qui était bien hérité, par exemple, des parents...
Ouais. Tout à fait. La communauté, on conserve quand même des biens propres, qui sont ceux, évidemment, qu'on avait avant le mariage. Ils ne sont pas happés par la communauté alors qu'on avait des biens avant que d'être mariés. Et puis, pendant le mariage, ou avant le mariage aussi, tout ce qui est succession et donation.
Alors c'est vrai, je suis en train d'essayer de...
Ça reste des propres.
Je vais essayer de retrouver ma petite question parce qu'on a une banque de données de questions de gens qui nous appellent tout au long de l'année au 03 83 36 20 20. Et Alfonso nous avait appelé il y a quelques temps de cela, mais plutôt pour le notaire. Alors je pense que vous pouvez répondre à cette question-là. Il a donné de l'argent à sa fille pour acheter une maison. Et il lui a dit, le papa, il lui a dit, tu mets tout à ton nom. Et elle a fait 50-50. Donc le jour du divorce, qu'est-ce qui se passe?
Choix.
Là, c'est plus de l'argent. Là, c'est transformé en... On achat immobilier.
Alors, si on a un bien, si on a de l'argent, on va dire propre, et qui n'est pas de l'argent, du contraire de sale, hein, on va dire.
Oui,
si on a de l'argent qui nous appartient propre, qu'on achète pendant le mariage un bien qui va tomber donc dans la communauté, on peut, au moment de l'acquisition, faire acter dans l'achat, dans l'acte notarié d'achat, qu'on a fait un apport, qui est un apport en propre, à hauteur de temps.
Mais il faut le notifier, c'est pas automatique.
Il faut le notifier, voilà. Si on ne le notifie pas, au moment de la liquidation de la communauté, on va pouvoir dire, attention, on a fait un apport au moment de cet achat, on ne l'a pas fait stipuler, en revanche, il s'agissait bien de fonds qui étaient propres.
Il faut pouvoir le prouver.
Il faut pouvoir le prouver. Donc en fait, c'est juste un problème de preuve, parce que bien souvent, ils ont du mal à retrouver le relevé de compte qui est parti du compte du papa vers le compte de la fille et vers le compte du notaire ou de la banque. Ouais. Mais si on arrive à le prouver, à ce moment-là, au moment de la liquidation de la communauté, l'époux va pouvoir bénéficier effectivement d'une récompense, donc c'est-à-dire de récupérer ses fonds propres.
Alors ça, c'est possible quand il y a un achat. Là, on comprend bien qu'il y a eu juste transfert d'une somme d'argent dans un bien immobilier. Mais quand on a mis ça sur le compte commun et puis que c'est parti au petit bonheur la chance dans les
fini.
Dépenses communes, c'est terminé. Hein. Bon, 173 millions d'euros.
Ah ben, ça va vous éclairer la journée.
Oh la vache. 03 83 36 20 20. On va mettre un petit peu d'amour et de tendresse dans cette émission consacrée à la séparation, au divorce et à tout ce qui concerne le droit de la famille avec maître Aline Faucheur et vos questions au 03 83 36 20. Pour poser toutes vos questions à maître Aline Faucheur, c'est notre avocate et elle répond à vos questions sur le droit de la famille. Alors on n'a pas d'appel là, qu'est-ce qui se passe? 03 83 36 20 20 si vous avez des questions à poser sur la séparation, sur la garde des enfants, sur la pension.
Oui,
alimentaire.
La pension alimentaire pour les enfants.
Qui est toujours alors la pension alimentaire c'est pour les enfants et quand c'est l'un des deux qui paye pour l'autre, comment ça s'appelle?
Alors, pendant le temps de la procédure de divorce, c'est aussi une pension alimentaire entre guillemets dite au titre du devoir de secours qui se commue après au moment du divorce en prestation compensatoire.
Prestation compensatoire. Alors souvent on pense que c'est monsieur qui paye à madame, mais ça existe dans l'autre sens aussi, j'imagine de plus en plus parce que les femmes gagnent bien leur
vie. Alors de plus en plus, j'irai pas jusque là.
Ah non ?
Non, je peux pas considérer que ce soit de plus en plus. En revanche, il y a de plus en plus de divorces dans lesquels il n'y a pas de prestation compensatoire, c'est-à-dire que monsieur ne verse rien à madame parce que madame elle est autonome.
Alors que il y a quelques années encore, c'était systématique ou
non,
madame travaillait pas, monsieur payait,
non, ça n'a pas été systématique parce qu'on a quand même une population d'épouses qui travaillent quand même beaucoup plus depuis maintenant bon nombre d'années quand même. On ne peut pas dire les années 60-70, c'est plutôt ces années-là qui sont un peu critiques. Mais depuis, je dirais le 21e siècle, il y a quand même la majorité des femmes travaillent.
Les chiffres du divorce 2023 sont tombés. Alors la moitié des, pardon pour cette lueur d'espoir, la moitié des mariages en France se terminent par un divorce. Je crois que c'était 1 sur 3, c'est 1 sur 2 maintenant.
Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je lis 1 sur 2.
Voilà, c'est fou ça. Alors pourquoi est-ce qu'on divorce? Il paraît que c'est les femmes qui souvent demandent le divorce. C'est vrai, vous le constatez dans votre pratique?
Alors non, pas forcément. Non.
C'est autant les hommes que les femmes?
Oui, je fais pas de constat d'une majorité de femmes qui demanderaient le divorce. Maintenant, alors ça va, je sais pas si je vais le dire, mais...
si, vous ne pouvez pas vous en empêcher.
Elles ont quand même souvent l'impulsion des choses.
Oui,
voilà.
Oui, ça, c'est vrai. Vous l'avez
les
bien
époux
dit.
Sont un peu plus attentistes.
Alors, première cause de divorce, c'est ce qui est marqué dans l'article. Hein. Je ne sais pas si c'est votre constat également. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Enfin, les femmes trouvent que leur mec fout rien, quoi. En gros, que le partage des tâches ménagères, de ce qui incombe aux enfants n'est pas partagé équitablement, et donc elles demandent le divorce. Deuxième cause, la tromperie. Vous constatez ça aussi?
Ouais.
Oui.
L'adultère reste quand même assez au cœur des séparations.
Et les femmes et les hommes demandent le divorce pour la même raison ou pas?
Alors, moi, de ce que je constate, je ne peux pas en faire une généralité, mais je trouve que les femmes demandent beaucoup moins le divorce parce qu'elles ont rencontré quelqu'un. Voilà. C'est beaucoup plus masculin, en fait. Je pense qu'elles sont... Encore une fois, c'est une question d'impulsion. C'est-à-dire que les deux ne vont pas bien dans leur couple, hein, que ce soit monsieur ou madame. Mais elles ont l'impulsion de ne pas continuer à supporter ça. Alors, celles qui ont les moyens de demander le divorce et d'avoir cette impulsion-là, parce qu'on a quand même toute une frange, effectivement, aussi, d'époux ou d'épouses qui n'ont pas la surface financière, ne serait-ce que pour partir, parce qu'il faut louer un logement.
Donc on reste ensemble.
Donc elles ne partent pas tant que il y a pas quelque chose qui se décante aussi et qui leur permette d'avoir les moyens de trouver le logement. Souvent c'est le logement, c'est ça qui coince. C'est-à-dire il faut que je trouve un logement, il faut que je paye un loyer. Or le revenu que j'ai ne me suffira pas à me loger, à accueillir les enfants. Voilà, ça c'est assez compliqué.
On peut rester dans le logement quand on est divorcé? On peut rester dans la même maison?
Alors
rien ne l'empêche légalement.
Voilà, légalement, rien ne vous empêche de rester ensemble dans la même maison jusqu'à trouver une solution financière. Alors là, on est plutôt sur la frange d'un couple qui est d'accord pour se séparer, où il n'y a pas une guerre de tranchées à l'intérieur de la maison, parce qu'en fait, ce qui est dur à supporter, c'est ça. c'est l'ambiance à la maison une fois qu'on a décidé qu'on se séparerait.
Surtout pour les enfants, s'il y a des enfants, parce que ça ne doit pas être simple tous les jours. 03 83 36 20 20, si vous avez une question à poser, vous êtes en plein divorce. Vous y pensez, vos enfants sont en plein divorce, vous avez envie d'avoir quelques petits éclaircissements, vous avez une question qu'on ne peut pas poser facilement à son avocat ou à quelqu'un de son entourage, eh bien vous le faites ce matin sur France Bleu, un petit coup de fil à Maître Aline Faucheur qui est avocate, on parle de droit de la famille, 03 83 36 20 20, on a vu qu'on pouvait parler adoption également, succession, vous n'hésitez pas, 03 83 36 20 20. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Y aurait-il une bouffée d'amour sur la Lorraine et on n'a plus envie de parler de divorce ?
C'est l'arrivée de Pâques. Ah,
c'est ça, à vous ah. Vous avez raison. Vous avez raison. 03 83 36 20 20. Si vous avez des questions à poser sur le droit de la famille à notre avocate, Maître Aline Faucheur, vous n'hésitez pas. C'est maintenant. Elle est là jusque 10 heures. Appelez-nous. 03 83. T'as vu, je le fais bien. 03 83 36 20 20. Bah, si on parle pas divorce, on peut parler mariage. On dit toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. À quoi il faut penser quand on se marie en cas d'éventualité de... Ça se passe pas bien, 1 sur 2, je vous le rappelle.
Alors, c'est vrai que c'est plus facile à divorcer des époux qui sont séparés de biens.
Non, mais c'est pas automatique quand même, la séparation de biens.
Non, c'est pas automatique. Et puis, bien souvent quand même dans l'esprit des gens, mariage égale communauté. Enfin, c'est une volonté délibérée, en fait, de tout mettre en commun.
Ouais.
Donc, on peut pas...
C'est une preuve d'amour, madame,
ouais,
ça s'appelle.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une certaine défiance à l'égard de la séparation de biens parce que, dans l'esprit des gens, celui qui voudrait faire un contrat de mariage avant le mariage, alors même qu'il n'y a pas forcément de biens à protégé, c'est parce que
il prévoit déjà qu'il y aura une post-mortem. Alors c'est vrai que souvent on pense que la séparation de biens c'est pour les gens qui ont un patrimoine de famille ou autre, ou alors pour ceux qui ont une entreprise. Mais
oui. Bah, c'est vrai que c'est sur ces deux plans-là qu'on conseille la séparation des biens. Mmh. Des futurs époux qui sont commerçants ou qui sont indépendants et qui sont effectivement commercialement indépendants, on sait que la liquidation judiciaire ou en tout cas toute difficulté économique peut entraîner l'argent de la communauté dans le gouffre professionnel.
C'est une façon de se protéger pendant le mariage.
C'est une façon de se protéger pendant le mariage. Donc il y a ça, la séparation de biens, elle permet d'éviter ça. Donc quand on a des biens effectivement au départ et qu'on épouse quelqu'un qui va être dans l'exploitation commerciale d'une entité, il vaut mieux se séparer de biens. Ça, c'est pas faux. Maintenant, moi je trouve pas ça complètement délirant d'envisager son divorce au moment où on se marie. Psychologiquement, ça ne me pose pas de problème.
Mais parce que bon, vous savez de quoi est fait...
Complètement, mais je veux dire, c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir se dire, bon, de toute façon, la vie... Enfin, il suffit de regarder les statistiques. On n'est pas non plus complètement naïf au moment où on se marie.
Ah bon, surtout qu'on ne se marie plus. Ça veut dire que pour tous ceux qui vivent pendant des années dans le péché, mesdames et messieurs, en couple sans être mariés, à quoi il faut penser ? Pour la séparation. Est-ce que là, c'est foutu d'avance ?
Ah bah de toute façon, il n'y a pas de communauté.
Ah, il n'y a pas de communauté, d'accord.
Ah bah non, y a pas
même s'il y a des enfants, même s'il y a un achat commun.
Il n'y a aucune communauté. Alors sur les biens immobiliers, on va avoir une indivision, mais ça va être les règles de l'indivision qui vont s'appliquer aux biens immobiliers. Donc on peut liquider une indivision devant le tribunal comme on aurait autant de mal à liquider une communauté. Donc là-dessus, il y a quand même une égalité de traitement sur l'indivision. Et sur la communauté. Simplement, c'est pour tout le reste, en fait. Quand on est séparé de biens, si on veut qu'il soit acté que le canapé est à moi parce que je l'ai payé, qu'on est séparé de biens et que quand on se séparera, c'est à moi, bah, il faudrait limite l'écrire quelque part, garder la facture à son nom. Il faut anticiper.
Alors, on a une question de Françoise et qui ne concerne pas le divorce. Je vous dis aujourd'hui, vous avez raison, c'est la veille du week-end pascal. Je pense que c'est la trêve.
Tout le monde
n'est pas des confiseurs, mais des divorcés. Et Françoise, elle a envie de nous parler d'autre chose. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Vous habitez Thaon, les Vosges.
Voilà, oui. Voilà.
Alors, quelle est votre question?
Alors, poser une question concernant le droit, le nom que pour les enfants.
D'accord.
Voilà, mon fils a deux enfants, on va dire, pour l'instant. Un qu'il a déclaré à la naissance, qu'il a assisté à l'accouchement. L'autre, ben, il n'était pas au courant, donc et il l'a reconnu un peu après.
D'accord.
Donc voilà. Et sur le livret de famille, c'est marqué le nom du papa, le nom de la maman, et l'enfant, c'est le nom de la maman.
C'est la même maman dans les deux cas, Françoise ?
Oui, oui, oui.
D'accord.
Et là, dernièrement, elle lui a fait un enfant, elle l'a prévenu un mois avant, en disant voilà, j'accouche dans un mois. Et voilà.
Donc c'est le troisième ?
Le troisième, oui.
D'accord.
Et là, pour l'instant, il n'a pas encore reconnu et il ne sait pas s'il va le reconnaître.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est, maître, pour le nom des enfants?
Sur le livret de famille, il est indiqué qu'ils ont les deux noms, alors.
Non, même pas. Il n'a que le nom de la mère.
D'accord.
C'est donc marqué le... papa, le nom du papa, donc le nom de mon fils, la mère, le nom de la mère, et enfant, le nom de la mère.
D'accord. Donc
les enfants ont le nom de la mère.
Les enfants ont le nom de la mère.
D'accord.
Même si le père les a reconnus, c'est ça en fait qui fait tiquer Françoise.
Oui.
Oui. Ils ont le nom de la mère. Voilà. C'est ce qui a été effectivement déclaré à l'état civil.
C'est-à-dire que ça, c'est un choix des parents.
Oui.
C'est-à-dire que c'est certainement madame et monsieur ne s'est pas opposé.
C'est-à-dire que s'il n'était pas là au moment effectivement de l'inscription à l'état civil de la naissance de l'enfant, elle a mis son nom à elle.
Ouais. Mais j'allais vous dire le contraire est vrai aussi, parce que souvent moi j'ai pas souvenir qu'on m'ait demandé quel nom voulaient porter mes enfants, on a mis le nom de monsieur
alors
automatiquement.
Alors qu'en fait on peut mettre les deux noms avec un tiret.
Ouais. Alors attendez Françoise, on va écouter.
On peut mettre le nom de la mère, on peut mettre le nom du père, on peut mettre le nom des deux avec un tiret.
Mais c'est un choix des parents. Ok. Alors Françoise, vous dites quoi vous?
Alors, parce que le premier, c'est lui qui a été élevé et déclaré à la mairie.
Ok.
Donc là, il aurait dû porter son nom à lui.
Mais il aurait fallu qu'il le dise. Mais peut-être que l'employé de mairie, pourquoi est-ce que l'employé de mairie... La maman n'était pas là?
Bah non, forcément.
Elle était à la maternité.
Ouais. Ah, c'est étonnant, ça, quand même.
Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il voudrait que ses enfants portent son nom, ou les deux, peu importe. Mais au moins que son nom apparaisse.
Est-ce que c'est possible?
Alors, on peut aujourd'hui changer beaucoup plus facilement de nom à l'état civil. Depuis quelques années, les dispositions légales ont changé, donc ça a été facilité. Notamment pour... on a des enfants dont les parents sont séparés, qui avaient par exemple le nom du père et qui, parce qu'ils sont en rupture avec le père, veulent prendre le nom de la mère.
D'accord. Mais ça, c'est possible quand on est majeur et c'est du fait des enfants.
Non, alors on peut aussi, quand on est mineur, demander.
D'accord.
Il faut être mineur de plus de 13 ans. Pour pouvoir faire ce type de demande. Alors, simplement, lui, j'ignore, je suis assez pessimiste sur la possibilité pour monsieur de voir... Alors, changer, ça c'est sûr que non.
Oui.
C'est-à-dire qu'il ne pourra pas changer le nom de la mère à son profit à lui.
Oui.
Mettez deux noms.
Oui. Alors, je ne pense pas que ce soit possible. Mais
madame n'est pas d'accord, c'est ça, parce que madame n'est pas d'accord. La maman n'est pas d'accord.
Madame, est-ce que c'est pour une histoire d'aide familiale? Parce que comme elle est, entre guillemets, mère
isolée.
Célibataire, je ne sais pas, est-ce qu'elle touche plus d'aide en portant leur nom qu'avec le nom du père? Enfin, je ne sais pas.
Alors, de toute façon, si elle est opposante, à mon avis, il n'y a pas de possibilité.
Donc, il faut attendre en fait que les enfants grandissent et que ce soit leur choix.
Exactement.
C'est un moment, donc voilà, pour votre fils.
Et là, il verse une pension pour les enfants?
Rien du tout.
Ouais. Donc elle lui réclame rien.
Ouais. Non.
D'accord. Alors pour celui qui arrive là, parce que si j'ai bien compris, il y en a un troisième qui arrive dans un mois. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Il est né.
Ah oui, donc c'est trop tard aussi, c'est lui.
Il est né aussi.
Françoise, vous les voyez vos petits enfants ou pas du tout?
Oui, j'essaie de les voir, mais c'est compliqué avec la maman. C'est compliqué.
Bon, mais au moins vous voyez vos trois petits enfants, c'est bien.
Ah, c'est compliqué aussi parce que papa s'en occupe pas beaucoup, donc il a pas la main pour s'en occuper, quoi. Elle lui laisse pas sa place.
Ah là, grands et petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, Françoise.
Oui, exactement. Enfin, moi j'ai 72 ans, vous voyez, donc moi, je suis divorcée aussi, donc moi le problème du divorce est réglé. Ouais. Mais bon, voilà.
Mais après, votre fils, il peut aussi solliciter le juge pour voir fixer l'exercice de ses droits.
Oui. Il peut aller les voir quand il veut. C'est pas un problème.
Oui, mais on va dire que ça, c'est plus leur souci à eux. Hein. Voilà, Françoise va s'inquiéter pour l'homme.
Voilà,
on vous embrasse.
Bon, merci beaucoup.
Merci. Bonne journée à vous, bonne Pâques. 03 83 36 20 20, vous avez des questions à poser à maître Aline Fauchard. Vous voyez que ça peut être sur autre chose que les séparations. Un petit coup de fil, 03 83 36 20 20, avec notre avocate jusque 10h sur France Bleu Lorraine. On est avec maître Aline Fauchard ce matin, 03 83 36 20 20, si vous avez des questions à lui poser. Alors, sur le droit de la famille, en général, un petit coup de fil à France Bleu, 03 83 36 20 20. On a Annick qui nous appelle de Nancy. Alors, Annick, ça, c'est une question de succession, hein, c'est bien ça? Bonjour,
c'est
Annick.
Ça. Oui. Bonjour.
Bonjour. Alors, on vous écoute.
Alors, voilà, je suis mariée, mais séparée avec mon mari. On a des enfants en commun.
Oui.
Et lui a une fille qu'il n'a pas reconnue.
Oui.
Et je voudrais savoir s'il décède, Comment on fait déjà pour voilà, retrouver cet enfant et comment c'est le partage, ce qui se passe.
Où c'est compliqué ça. Vous êtes divorcée, c'est ça, Annick?
Non, on n'est pas divorcée. Non,
d'accord.
Non.
Vous êtes mariée avec ce monsieur, vous avez des enfants en commun.
Mais vous êtes juste séparée. Voilà.
Vous êtes séparés.
On vit pas ensemble et lui a une fille mais qu'il n'a pas reconnue.
D'accord. Alors c'est pour vous, c'est pour le notaire ça?
Non, ça peut être pour moi. C'est la qualité en fait de cet héritier. Est-ce que le fait qu'il ne l'ait pas reconnu lui donne la faculté d'être son héritier en fait?
Oui. Oui, tout à fait. Oui.
Alors
et comment on peut faire pour la retrouver et prouver que c'est bien sa fille?
Parce que vous, votre désir en tout cas, ou ce monsieur là, c'est de retrouver cette personne là qu'elle hérite de quelque chose, si j'ai bien compris.
Bah oui, c'est ça. Il y a pas, voilà, elle a le droit.
Oui. Alors, maître.
Bah déjà, si on la connaît pas et qu'on sait pas où elle est, c'est compliqué de la retrouver. Alors, dans un premier temps, déjà, votre objectif, c'est retrouver cet enfant.
Oui.
Oui.
Bah, personne ne va aller la chercher pour vous.
Le notaire ne va pas aller la chercher? Non. Même si on dit qu'il y a un enfant qui existe.
Le notaire, ce n'est pas son job d'aller chercher les enfants, effectivement, qui n'ont pas été reconnus, oui, qui sont nés hors mariage. Donc, lui, ce n'est pas son boulot. Simplement. Au moment de la succession, il faudrait se préoccuper dès maintenant qu'elle ait une existence en fait dans le juridique, parce que alors il peut de toute façon la reconnaître si effectivement elle en est d'accord. Enfin, je sais pas quel âge elle a.
Non, il veut pas la reconnaître. Non, d'accord. Sinon ça serait fait.
D'accord, donc il veut juste qu'elle ait quelque chose dans la succession, mais si elle n'est pas reconnue...
Après, ce sera déclaratif, mais il faut qu'il le fasse avant son décès, c'est-à-dire qu'il faut qu'il écrive qu'il souhaite effectivement que cet enfant soit ait la qualité des héritiers, soit effectivement faire un testament à son profit. Mais comme vous ne l'avez pas avec vous... Mm-hmm. Comme vous ne la connaissez pas, que vous ne l'avez pas identifiée, c'est compliqué.
Ouais. Vous savez quoi, Annick, on reposera la question à un notaire. On va faire comme ça. On va garder votre numéro, bien au chaud.
Chose est sûre, c'est que le notaire vous dira, si on n'a pas l'identité, si on ne sait pas où elle est et si on ne peut pas la contacter, il ne se passera rien.
Mais l'idée, c'est que peut-être le jour venu, le plus tard possible, elle se fasse connaître. Et qu'elle dise, oui, mais moi aussi, je veux ma part du gâteau. Est-ce que ça, c'est possible?
Alors, elle peut tout à fait venir, effectivement, en qualité d'héritier, mais il faudra quand même rapporter la preuve de ce lien biologique.
Oui. Biologique,
il y a quand même, n'est pas héritier qui veut. En revanche, si on veut permettre à quelqu'un si on veut gratifier quelqu'un, sans la reconnaître, sans qu'il y ait ce lien d'établi, il peut parfaitement faire un testament au profit, par exemple, de cet enfant. Mais encore une fois, il faut qu'on ait son nom, son prénom, sa date de naissance, et puis qu'on sache que au moment du testament, on va la chercher.
Annick, on va garder vos coordonnées, on se permet de le faire si vous le voulez bien, on vous rappellera quand notre notaire sera là. Est-ce que ça vous va, Annick?
Oui, tout à fait.
Bon, je vous embrasse, bonne journée à vous. On va accueillir Elisabeth qui nous appelle de Ludres. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour.
Oh, cette question-là, on l'a souvent et moi, elle m'intéresse. Alors, je vous écoute, Elisabeth.
Oui, je voudrais savoir jusqu'à quel âge doit-on payer une pension quand... l'enfant fait des études.
Et qu'on est séparé ou divorcé.
Tout à fait.
Oui, séparé. Ouais. Quand les parents sont séparés, l'enfant fait des études. Et je voudrais savoir jusqu'à quel âge doit-on payer une pension à la maman et à l'enfant, par exemple, ou à l'enfant et à la maman. Voilà.
Alors, le Code civil est très clair. Les deux parents disposent d'une obligation alimentaire à l'égard de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes financièrement. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas autonome financièrement peut être en demande d'une pension alimentaire.
Donc, c'est pas une question d'études, il peut avoir arrêté ses études.
C'est pas une question d'études. Un enfant, par exemple, qui est diplômé et qui a une période de recherche d'emploi, par exemple, d'un an ou de deux ans, il devrait être pris en charge. C'est l'obligation alimentaire. On doit subvenir aux besoins essentiels de son enfant à partir du moment où il n'est pas autonome financièrement.
Alors, s'il a 30 ans, qu'il glande rien.
C'est justement...
Pardon de le dire directement. Hein.
C'est justement après le problème de l'appréciation qui va être faite par un juge. Alors déjà, l'enfant qui est majeur et qui poursuit des études, c'est lui qui est titulaire en fait de cette demande en obligation alimentaire. C'est-à-dire que le parent qui était celui qui versait la pension alimentaire jusque à la majorité, etc., qui a continué pendant les études. Si à un moment, il considère que son gamin, il a plus besoin et qu'il a qu'à aller bosser et qu'il a plus besoin, effectivement, de pension alimentaire et qu'il s'arrête, c'est à l'enfant, finalement, de demander à son parent d'honorer cette obligation alimentaire. Donc, ça n'est plus le problème des deux parents entre eux.
D'accord. Donc, on va voir un juge.
C'est le problème du majeur.
Et le juge va statuer.
Et le juge va statuer. Et il va voir si la demande de l'enfant, elle est
légitime
ou pas. Ouais. Sachant que on n'a pas d'obligation de payer les études. Attention. L'obligation des parents, c'est une obligation alimentaire. On a l'obligation de subvenir aux besoins de ses enfants majeurs, c'est-à-dire qu'ils puissent manger et en gros qu'ils puissent avoir un toit sur la tête. L'équivalent de ça, qu'ils puissent se loger et manger.
D'accord.
Donc, partant de là, on ne peut pas contraindre un parent à payer des études. Ça, c'est impossible. Donc, le parent qui ne veut pas payer d'études, il devra quand même, à tout le moins, honorer l'obligation alimentaire, mais pas à la hauteur du coût des études.
D'accord.
Et le parent qui ne veut pas payer du tout même cette obligation alimentaire-là, il peut y être contraint par son propre enfant.
D'accord.
Ça répond à vos questions, Elisabeth ?
Oui, ouais. Donc si à 30 ans, l'enfant fait encore des études, en fait, le parent doit subvenir aux besoins de l'enfant, même si c'est plus un enfant.
Bah, le problème, c'est que le parent, moi, ce que je ferais, c'est que en tant que parent, je m'arrêterais.
Ouais. Hein, je mettrais l'argent de côté.
Non, mais je m'arrêterais de régler en lui disant trouve un job à côté de tes études. Ou là, bon, 12 ans d'études, c'est long quand même.
Ouais.
Donc maintenant que tu es en capacité de travailler parce que tu as obtenu un diplôme, à 30 ans, j'imagine bien qu'il y a eu quand même au moins un diplôme au milieu.
Oui.
Voilà. Donc tu as au moins un diplôme qui te permet de. Si tu veux poursuivre des études au-delà, assume-toi.
Oui, charge à toi. Voilà.
Bah, charge à toi. Ouais. Et même quand on n'est pas séparés, je crois que c'est. Peut-être ce que l'on dirait aussi à
son
enfant.
À son enfant.
Hein, de dire, écoute, voilà. Ouais. Et si, si jamais lui considère que cette obligation alimentaire, encore une fois, est légitime, à charge de saisir le juge.
Oui.
Et puis, c'est au juge de décider si cette demande
est légitime.
Alors, autant vous dire que je pense que le juge à 30 ans, il ne considérera pas que c'est légitime.
D'accord, voilà, Elisabeth.
Très bien.
Ouais, finalement, c'est les mêmes soucis que quand on n'est pas séparés.
Ah, mais complètement. C'est comment faire avec son enfant, Tanguy.
Et c'est pas toujours facile. Merci, Elisabeth.
C'est moi.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Au revoir.
Bon, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Non, je crois que c'est terminé. Mais vous pouvez continuer à nous appeler d'ailleurs. 03 83 36 20 20. On va garder bien au chaud toutes vos questions. Et Maître Adine Faucheur revient toutes les 4 semaines entre 9h et 10h pour répondre à vos questions. Je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir ou pas?
Oui.
Non? Ah bon? Je vous dis pas adieu.
Dans 4 semaines.
Dans 4 semaines et on vous réécoute très vite sur France Bleu
Bonne
et sur
journée.
FranceBleu.fr.